Madrid, Moscou.
Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie.
There is no alternative.
Des actes, l'alignement des actes.
À ta place, en façon, des Burgatums.
Time will tell.
Russe Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier. Je suis triste pour Petro Poroshenko à la défaite de qui je ne me résous pas. C'est ce qu'on peut lire cette semaine dans Le Point sous la plume, non pas de Jacques Sapir, mais d'un certain Bernard-Henri Lévy, le philosophe médiatique qui relate dans son bloc-notes hebdomadaire sa rencontre plutôt bienveillante avec Volodymyr Zelensky, cet humoriste ukrainien inconnu des Occidentaux il y a encore quelques mois, mais qui vient d'arriver en tête du premier tour de l'élection présidentielle ukrainienne. L'homme de télévision vendange presque deux fois plus de voix que l'actuel président qui arrive en seconde place. Une élection qui, par ses aspects inédits et rocambolesques, nous parle de la situation d'un pays en difficulté 5 ans après le soulèvement du Maïdan, 5 ans après également l'annexion slash rattachement, c'est selon, de la Crimée par la Russie. L'occasion bienvenue en tout cas pour nous de faire un point sur l'Ukraine. Bienvenue dans Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir.
Bonjour Clément.
Et avec nous aujourd'hui André Filler, bonjour.
Bonjour Clément.
Historien, spécialiste de l'Europe de l'Est et de l'ex-Union soviétique, vous êtes professeur à l'université Paris 8. On vous retrouve dans un instant. André Filler, tout d'abord l'édito de Jacques Sapir et ce coup de pied dans la fourmilière à la présidentielle ukrainienne.
Ah oui, tout à fait, parce que le succès au premier tour de l'élection présidentielle en Ukraine de l'humoriste Volodymyr Zelensky a constitué un véritable coup de tonnerre pour l'élite politique ukrainienne et même nettement au-delà. L'écart avec le président sortant, M. Poroshenko, est important. On est pratiquement à 30% de voix pour Zelensky contre 16% à Poroshenko. Et il faut noter que l'ancienne idole de la révolution orange, Madame Yulia Tymoshenko, n'arrive qu'en troisième position avec environ 13% des suffrages, et le quatrième candidat, Yuri Boyko, lui, ne fait que 11% des suffrages.
Et le premier constat que vous faites de ces résultats, il est géographique, Jacques Sapir.
Oui, tout à fait. La répartition des suffrages apporte d'ailleurs un élément très intéressant. Le vote pour Madame Tymoshenko et Monsieur Poroshenko, ces votes sont massivement concentrés sur l'ouest de l'Ukraine. Ceux pour Boyko le sont dans l'extrême est, là où l'Ukraine fait d'ailleurs face à la sécession du Donbass, et Boyko représente dans une certaine mesure ce qui reste des voix des Ukrainiens russophones, dont l'importance a beaucoup diminué par rapport au scrutin des années 90, 2000 du début de 2010. Donc l'importance a beaucoup diminué, d'abord du fait de la sécession du Donbass, évidemment, du rattachement de la Crimée à la Russie, mais aussi de l'exil d'une partie de la population ukrainienne russophone en Russie, un exil qui, selon des ONG, touche environ de 1,2 million à 1,5 million de personnes. En fait, seul Volodymyr Zelensky apparaît capable d'unifier l'ensemble des électeurs des différentes parties de l'Ukraine.
Et alors, comment interprétez-vous ce succès d'un outsider ?
Ah, ce succès traduit évidemment l'immense fatigue de la population ukrainienne, fatigue face à une classe politique qui est très corrompue mais qui est aussi très autoritaire. Il convient de noter que la situation économique est particulièrement mauvaise et cette situation a joué un rôle important dans l'élection présidentielle. En effet, le PIB de l'Ukraine baisse depuis 2008. Alors la guerre de 2014, la guerre civile de 2014 et 2015 a évidemment aggravé cette situation et aujourd'hui le PIB est à son niveau de 2005. Le PIB par habitant que gonfle par ailleurs, une baisse sensible de la population, baisse qui est due à la fois à la démographie, enfin disons à la, au fait que les naissances sont aujourd'hui inférieures aux morts, mais aussi évidemment au départ, tant vers la Pologne que vers la Russie, d'environ 2 millions à 2 millions et demi d'Ukrainiens, eh bien, ce PIB par habitant est lui aussi malgré tout en baisse sensible et il a, en 2018, son niveau de 2009. Enfin, l'investissement et l'épargne se sont massivement effondrés. Quant à la dette publique, même si elle reste aujourd'hui dans des valeurs, je dirais, moyennes pour un pays européen, il faut savoir que on était en 2012-2013 autour de 40%, on est aujourd'hui à plus de 70%.
Comment expliquez-vous cette situation économique difficile ?
Eh bien, la dégradation de la situation économique traduit très largement les effets de la crise avec la Russie et de la rupture, ou disons, de l'affaiblissement marqué de ses relations économiques. En effet, la Russie était le principal partenaire commercial de l'Ukraine en 2013, et ce partenaire commercial n'a pas été remplacé par l'Union européenne. L'Union européenne qui n'a pas fourni à l'Ukraine les ressorts pour retrouver une croissance soutenue. De fait, aujourd'hui, l'Ukraine vit sous la perfusion du Fonds monétaire international, une situation qui est préoccupante tant économiquement que politiquement. Les espoirs qu'avait pu susciter le mouvement dit de Maïdan ne se sont pas concrétisés et de fait, l'Ukraine a été sommée de choisir entre l'Union européenne et la Russie alors qu'elle ne pouvait pas justement assumer ce choix.
Et voilà qui nous ramène à l'actualité. Est-ce que cette élection, elle pourrait faire évoluer la situation? C'est bien sûr la grande question, Jacques Zapier.
Évidemment. Que donnera le second tour de cette élection? Alors, on ne peut ni exclure un rassemblement des vaincus autour du président sortant, M. Poroshenko, même s'il apparaît peu probable. Par exemple, Mme Yulia Tymoshenko s'est refusée à donner des consignes de vote à son électorat. Comme on ne peut pas exclure non plus un approfondissement du succès de M. Zelensky. Tout ce que l'on peut dire, c'est que si ce dernier l'emporte, il montrera la volonté d'une grande partie de la population ukrainienne de mettre un terme à la crise que le pays traverse depuis 2014. Seulement, Volodymyr Zelensky aura-t-il la capacité pour agir? Car toute sortie de crise passe, d'une manière ou d'une autre, par un accord, qu'il soit formalisé ou qu'il soit tacite, avec la Russie.
Et on va y venir, évidemment, à cette crise fratricide. Mais plongeons-nous d'abord dans l'ambiance de cette présidentielle ukrainienne, avec l'un de ses derniers rebondissements en date. Au moment où nous enregistrons cette émission, Volodymyr Zelensky qui défie son adversaire Petro Poroshenko dans cette vidéo diffusée sur Internet le 3 avril. Vidéo au style, disons, assez hollywoodien.
Je m'adresse à Petro Poroshenko. Vous m'avez invité à débattre en espérant que je me défilerai. Mais non, je ne suis pas comme vous en 2014. C'est ici que je vous attends pour débattre, au stade olympique de Kiev, devant le peuple ukrainien. Nous devrons passer des examens médicaux pour justifier devant le peuple que nous ne sommes ni alcooliques ni toxicomanes. Le pays a besoin d'un président en bonne santé. Je vous donne 24 heures pour réfléchir.
Voilà, débattre dans un stade, sur toutes les télévisions, vous avez 24 heures pour répondre. Et certifier que l'on n'est pas alcoolique, André Filler, vous avez l'impression que tout ceci, ça change la donne?
Écoutez, que le fait de ne pas être alcoolique, ça ne peut changer la donne que si on considère que le président Poroshenko puisse être soupçonné d'éthylisme. Pour être un peu plus sérieux...
Ça fait référence à son adversaire, bien sûr.
Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas de moyen de le confirmer ni l'infirmer. Pour être davantage sérieux, oui, effectivement, ça change la donne, me semble-t-il, puisque si on regarde, comme a signalé déjà M. Zapier, la carte électorale, on constate que Volodymyr Zelensky a réussi à fédérer pratiquement la totalité du territoire ukrainien, ce qui fait de lui, aussi improbable que ça puisse paraître, une sorte de candidat de consensus national, avec donc des résultats extrêmement marginaux pour ces trois concurrents, donc le président sortant Petro Poroshenko, Madame Tymoshenko, la passionnaria des mouvements de la Révolution orange de 2004, et le candidat des russophones, monsieur Boyko, les deux premiers arrivant en tête à l'extrême ouest, et monsieur Boyko à la frontière avec la République sécessionniste de la de Donetsk et de Lugansk. Donc, le premier constat, c'est que c'est un candidat qui arrive à fédérer l'opinion publique, ce qui, justement, vu ses origines dans la sphère médiatique et sa virginité du point de vue
son
expérience politique, mais aussi une sorte de côté immaculé par rapport à la classe politique très lourdement marquée par le sceau de corruption, de passe-droit, d'opacité. Après, on peut se demander légitimement, les questions se posent aussi bien à l'intérieur de l'Ukraine qu'à l'extérieur, quelles sont ses forces politiques, les réponses d'ailleurs sont assez facilement et rapidement données, qui sont derrière Vladimir Zelensky. Vladimir Zelensky n'est pas
un phénomène
météore, ils ne sont pas de nulle part.
Il faut peut-être simplement rappeler qu'il est célèbre pour une série télévisée dans laquelle il a joué et qui est en train de...
Il a joué le président, donc pour la première fois, de ce point de vue-là, une élection possible de M. Zelensky sera une première mondiale, puisque pour la première fois, quelqu'un qui a incarné un président deviendra président.
C'est pas le cas Ronald Reagan.
Et puis, de toute façon, l'analogie très fréquemment citée avec Reagan ne marche pas, puisque Reagan est quand même un professionnel de la politique au moment des faits. Il a été beaucoup plus longtemps en politique que Starlet d'Hollywood.
Je vous ai coupé, vous alliez nous parler de forces politiques qui seraient derrière lui, et évidemment, on pense à l'oligarque Kolomoïski.
On pense effectivement à l'oligarque et à l'homme fort de l'oblast de Dnipropetrovsk, Igor Kolomoïski, qui serait l'homme qui aurait créé le phénomène Zelensky, qui serait dans ce cas-là un phénomène de laboratoire, ce qui n'est pas le premier cas de figure de ce type de création d'un politique dans l'espace post-soviétique. On sait très bien que très souvent, les étoiles montantes, y compris en Russie, apparaissent comme un résultat de travail préalable issu des élites anciennes au pouvoir ou au contraire ancrées dans une opposition au pouvoir sortant. Effectivement, est-ce que Vladimir Zelensky est une revanche du clan de Dnipropetrovsk et d'Igor Kolomoïski personnellement contre le régime déclinant de Petro Poroshenko? Est-ce qu'il s'agit d'un affrontement clanique inter-oligarchique? Ce serait évidemment une hypothèse tentatrice, à mon sens trop simpliste pour être réellement prise au sérieux.
Effectivement, on impute ça aussi à un certain dégagisme dans la population. Quel est votre avis là-dessus?
De ce point de vue-là, la candidature même de Vladimir Zelensky, si on lit attentivement son programme, s'inscrit dans une certaine logique européenne. Si l'analogie avec Reagan n'est pas du tout de mise, celle avec Beppo Grillo, elle est beaucoup plus pertinente. Effectivement, c'est un homme des médias, c'est un homme qui connaît parfaitement les techniques de communication, qui a un programme qui est fondé sur les principes référendaires et plébiscitaires, donc avec comme premier décret proposé le décret du pouvoir populaire, Naroda Vlastia. Donc le retour, toute la rhétorique du retour du pouvoir au peuple, du pouvoir sous-entendu, patrimonialisé par la nouvelle oligarchie qui serait celle de Poroshenko, tout ceci enlève, si vous voulez, à M. Zelensky son originalité. Un dégagisme, certes, le report des sympathies vers cette personnalité venue d'ailleurs, ça se conçoit également dans un pays exsangue et, comme disait tout à l'heure M. Sapir, en proie de graves problèmes, notamment des problèmes économiques, de classe moyenne, que c'est le don de Zelensky se veut porter parole.
On va bien sûr y revenir, à une personnalité effectivement qui est très différente de la classe politique, même physiquement, c'est ça qui est intéressant, c'est quelqu'un de svelte qui porte des costumes cintrés, qui a plutôt un visage avenant, souriant, dont on n'a pas vraiment l'habitude. Jacques Sapir, votre avis sur ce personnage?
Oui, et moi ce qui m'intéresse dans le phénomène Zelensky, c'est justement ce que vous avez dit, André Filler, le fait qu'il apparaît comme le premier homme politique qui est capable de dépasser la fameuse tripartition de l'Ukraine qui existe depuis grosso modo 92-93.
Et qu'il va falloir nous rappeler.
Voilà. Ouais. Alors, justement, il faut savoir qu'on parle toujours de deux Ukraines. On dit voilà, il y a l'Ukraine ukrainienne et l'Ukraine russophile, russophone, voire russe. Les choses sont en fait beaucoup plus compliquées. Il y a une Ukraine qui, culturellement, historiquement, apparaît assez lié aux régions de Pologne, voire à d'autres pays d'Europe centrale. Il y a une région centrale de l'Ukraine, autour de Kiev, où les gens se sentent effectivement polonais, mais ils continuent d'utiliser massivement le russe, alors que dans la région ouest, c'est l'ukrainien qui prédomine de manière là absolument dominante. Et puis il y a au-delà du Dniepr, toute cette région qui était peuplée par des gens qui sont en fait d'origine russe, il faut le rappeler, c'était une zone de colonisation russe, alors de colonisation russe évidemment dans les temps soviétiques, mais bien avant en réalité, depuis la fin du XVIIIe siècle, et ce sont des gens qui parlent le russe, qui ne connaissent pas l'ukrainien, et qui se sentent, si ce n'est russe, en tous les cas, de très grande parenté avec la Russie.
Et alors, simplement, ça me donne l'occasion de dire que Volodymyr Zelensky est russophone.
Oui, tout à fait.
C'est quelqu'un qui parle ukrainien, qui sait parler ukrainien, mais sa langue première, c'est le russe, comme de nombreuses personnes
tout
en,
à fait.
En Ukraine. Beaucoup de gens parlent les deux langues, mais en général,
voilà,
les gens...
De même que Poroshenko.
De même que Poroshenko. Et il apparaît un petit peu comme le produit, si vous voulez, de cette Ukraine centrale, mais ce qui est important, c'est que lui, il a réussi, en réalité, à unifier, d'une certaine manière, les électorats. Parce que ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est que quand on avait un dirigeant que l'on qualifiait abusivement, d'ailleurs, parce qu'on a qualifié M. Kouchma de pro-russe, je pense que la situation était nettement plus complexe. Mais néanmoins, quand vous aviez ce type de candidat, c'est que vous aviez un vote massif de la population russophone, et une partie de la population de l'Ukraine centrale avait basculé vers ce candidat. Inversement, lors de la Révolution Orange, c'était le basculement d'une partie de la population de l'Ukraine centrale, de cette fameuse troisième Ukraine, vers des candidats qui étaient plutôt issus de l'Ukraine de l'Ouest, qui avaient expliqué justement ce basculement. Or aujourd'hui, il me semble que l'on a pour la première fois depuis la naissance de l'Ukraine indépendante fin 1991, on a pour la première fois l'émergence d'une dynamique politique qui n'est ni un basculement de l'Est vers l'Ouest, ni un basculement de l'Ouest vers l'Est, mais qui correspondrait d'une certaine manière à l'apparition d'une réelle dynamique ukrainienne. Et ça me semble effectivement extrêmement important.
Oui, André Filler, est-ce que c'est un « et en même temps » à l'ukrainienne ?
C'est certainement « et en même temps » ukrainien de facto, puisque justement, c'est comme vient de dire Jacques Sapir, pour la première fois, on dépasse le clivage Est-Ouest, mais on dépasse aussi, paradoxalement, du même mouvement, le clivage Europe-Russie, le choix d'alliance et doit être lu aujourd'hui en cas d'élection de M. Zelensky, et si M. Zelensky continue à poursuivre son programme tel qu'annoncé.
Ce qui est délicat, parce que j'allais dire c'est un « et en même temps », mais ce qui s'appuie sur un programme assez flou quand même.
Le programme est flou, pas beaucoup plus flou que celui de M. Poroshenko ou celui de Mme Tymoshenko. Il n'y a, à la limite, le seul dont le programme est passablement net, c'est M. Boyko, qui reste quand même un candidat à la marge.
Il faut peut-être dire à nos auditeurs qui ont peu l'habitude de la politique ukrainienne que dans les différentes forces qu'il y a, la structuration idéologique est assez faible quand même. Il faut le voir.
Oui. Mais ce qui justement le en même temps de M. Zelensky quand même paraît, encore une fois, là on ne peut émettre que des conjectures, de toute façon l'avenir nous dira, et d'une, s'il est élu, comme disait Jacques Sapir, une possible rassemblement autour de Petro Poroshenko n'est pas tout à fait exclu, ça paraît arithmétiquement peu probable, mais ce n'est pas totalement impossible. Ceci étant dit, s'il est élu et s'il continue à appliquer ce programme, aussi flou soit-il, l'élément qui est tout à fait nouveau, notamment en matière de la politique extérieure, c'est la notion de négociation et des dédommagements pour des territoires perdus. Donc, enveloppé dans le discours tout à fait nécessaire électoralement autour du mémorandum de Budapest qui est donc fixé les frontières inviolables de l'Ukraine à partir de 1991 et nierait le rattachement comme vous avez dit, l'annexion c'est selon de la Crimée. Aujourd'hui, il y a une approche dans le discours de Zelensky infiniment plus réaliste qui laisse entendre qu'on pourrait trouver des accords moyennant notamment des conditions financières, des conditions d'amélioration économique qui permettrait peut-être de trouver des terrains d'entente autour des questions qui paraissent, sur la présidence de Petro Poroshenko, insolubles.
Quelques mots encore de qui il est, et pour être peut-être un petit peu optimiste, si vous me permettez, on est dans un pays où on a pu voir quelques discours néo-nazis décomplexés. Et là, il se trouve que c'est un jeune homme qui a quelques origines juives, qui vient d'une famille de scientifiques, c'est-à-dire il est issu de l'intelligentsia soviétique, il est russophone. Est-ce que ce serait la revanche d'une certaine Ukraine plus souriante, une certaine Ukraine qui assume plus sa diversité par rapport à ces groupes, ces milices d'extrême droite, à la funeste notoriété? Là, ce serait quelqu'un qui serait plus représentatif peut-être de cette Ukraine en filière, Jacques Sapir.
Je crois que ces milices, d'abord, elles existent, il faut le savoir, c'est quelque chose dont on nie jusqu'à l'existence dans la presse occidentale, mais oui, c'est une réalité. En même temps, il ne faut pas non plus exagérer cette réalité. Oui, ces milices
sont... C'est pour ça que je vous pose la question, pour dire que finalement, il y a quelqu'un comme ça qui émerge.
Oui,
il n'y a pas 40 millions de fascistes en Ukraine, c'est bien pour ça que je vous pose la question.
Et ce n'est pas étonnant, si vous voulez, que ces milices aient pu faire régner la terreur, en particulier dans la région d'Odessa, et dans les régions justement de contact avec les deux républiques séparatistes de Lugansk et de Donetsk, oui, c'est une évidence. Qu'il y ait eu une porosité entre une partie de la classe politique ukrainienne et ces milices, c'est aussi une évidence. Mais maintenant, ces milices n'ont jamais représenté la totalité, ni même une fraction réellement importante de la population ukrainienne. Et je pense que la population ukrainienne est beaucoup plus raisonnable que ce que l'on veut dire et ce vers quoi l'entraînait justement la logique du président Porochenko. Moi, je vois aussi, alors non pas tellement dans la victoire de M. Zelensky, mais dans la défaite de M. Porochenko, par exemple, qu'un président sortant qui a quand même les moyens, d'une certaine manière, de peser sur l'élection et d'en manipuler un petit peu les résultats, ne fasse que 16% des suffrages, c'est une défaite impressionnante. Cette défaite impressionnante, elle ne fait pas que signer l'échec économique de Porochenko, elle ne fait pas que signer l'échec militaire et l'échec en termes de projet national de Porochenko, elle signe aussi la fatigue et le rejet des méthodes de Porochenko qui s'étaient à un moment donné alliées justement avec ces milices qui ont fait régner la terreur pendant un temps en Ukraine et qui sont aujourd'hui rejetées par une fraction extrêmement majoritaire de l'électorat.
Si vous permettez, je vous ajoute à ce que je viens de dire, Jacques Sapir, que y compris vous avez eu tout à fait raison, Clément, d'avoir souligné les origines de M. Zelensky. C'est d'un certain point de vue, pour la première fois, une émergence de des classes moyennes cultivées ukrainiennes qui justement ont des moyens, des outils, si vous voulez, intellectuels, de surmonter le clivage. Et dont l'objectif, l'ambition, si vous voulez, existentielle, n'est pas de perdre ou ne pas perdre les territoires, mais davantage de voir le niveau de vie, le niveau d'éducation. Et d'ailleurs, notez que les points les plus précis dans le programme Zelensky sont des points liés à la réindexation des salaires des médecins, des enseignants, etc. Donc, ce que l'on oublie de voir dans sa candidature, notamment dans la presse occidentale et française, c'est justement ce côté défenseur des classes moyennes qui tend, encore une fois, aujourd'hui, on n'a que la vision théorique, mais qui tend néanmoins à normaliser la société ukrainienne, de la sortir de cet état de crise permanente que la présidence Porochenko semblait avoir pérennisé, voire sanctuarisé.
Il faut dire oui que cette classe moyenne, elle souffre aussi cette classe moyenne ukrainienne, elle souffre aussi d'une immense fuite des cerveaux. On a beaucoup de mal à trouver de bons médecins, de bons ingénieurs. Ils partent tous, que ce soit, comme le disait Jacques Sapir, pour certains en Russie, pour d'autres vers la Pologne, vers l'Ouest. Il faut dire également un mot encore de démographie, que l'Ukraine, depuis son indépendance en 91, a perdu entre 6 et 10 millions d'habitants par à la fois la démographie et donc l'émigration. Finalement, est-ce que le drame de la situation actuelle en Ukraine, ça n'est pas, André Filaire, qu'elle est écartelée entre deux blocs?
Ah mais tout à fait. Et justement, ce fait d'être écartelé, c'est aussi l'absence de moyens de se rallier de plein pied à l'un des deux, de moyens et de volonté. Mais l'écartelement est presque métaphysique. Et il faut dire, et je reviens à l'introduction de Jacques Sapir de tout à l'heure. Il faut dire également que l'Europe n'a rien fait pour, au-delà des déclarations de certains philosophes médiatiques, pour faire rapprocher l'Ukraine de sa sphère d'influence.
Je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous trouvez que l'Europe a suffisamment pris sous son aile cette Ukraine, ou en tout cas autant que l'Ukraine l'aurait voulu ?
Ah non, absolument
L'Ukraine
pas.
Du Maïdan, en
absolument
tout cas.
Absolument pas. Et ça se conçoit, Est-ce que l'Europe a des moyens aujourd'hui d'accueillir 50 millions d'Ukrainiens ? Parce que c'est aussi... les fuites sont extrêmement importantes, mais elles sont relativement limitées comparées à ce qu'elles auraient pu être si l'Ukraine avait eu accès à l'espace Schengen.
Il faut nous en dire plus, parce qu'actuellement, les Ukrainiens peuvent venir dans l'Union européenne sans visa. Ça date de l'année dernière. Inversement, c'était déjà le cas depuis pas mal de temps. Donc, les Européens pouvaient aller en Ukraine. Néanmoins, oui, vous nous dites qu'elle n'est pas dans l'espace Schengen. Qu'est-ce que ça change
La question de pouvoir... Déjà la question du droit de travail dans beaucoup d'États européens met des blocages pour les Ukrainiens, comme pour d'autres ressortissants de l'Europe de l'Est. La même chose s'applique par exemple aux Polonais, mais particulièrement aux Ukrainiens, aux Géorgiens, aux Moldaves, de pouvoir trouver des emplois qualifiés ou surtout des emplois non qualifiés, puisque vous avez parlé, Clément, de la fuite des cerveaux, mais il y a aussi la fuite de la main-d'œuvre qualifiée, qui est très sollicitée d'ailleurs en Europe, notamment en Europe méditerranéenne, sur la péninsule ibérique, en Italie, les ouvriers ukrainiens sont extrêmement prisés. Or, les syndicats locaux ne voient pas ça du tout de bon oeil, puisque ça constitue évidemment un danger pour les emplois de ces pays. Donc, l'Ukraine est très très peu soutenue par l'Union européenne, au-delà des déclarations purement rhétoriques des dirigeants de l'Europe, ce qui ne veut pas dire qu'elle, au jour d'aujourd'hui, qu'elle soit particulièrement soutenue, à mon sens, par la Russie. C'est justement un État colossal laissé pour compte.
Russe Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier. Jacques Sapir, un mot de la situation économique en Ukraine.
Alors, il faut d'abord rappeler une chose, c'est qu'en 2013, c'est la dernière année sur laquelle on a des statistiques de bonne qualité, le commerce extérieur, import et export, avec la Russie, était supérieur au commerce extérieur avec l'ensemble de l'Union européenne. Donc ça, si vous voulez, ça nous dit déjà quelque chose. Ce qui n'était pas le cas, et ça c'est très intéressant, ce qui n'était pas le cas au début des années 2000. Autrement dit, le commerce avec la Russie s'est développé de 2000 à 2013, et le commerce avec l'Union européenne, essentiellement avec les pays de l'Union européenne qui sont proches de l'Ukraine, c'est-à-dire la Pologne, lui a diminué en proportion. Et ça nous disait quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que le dynamisme incontestable que l'Ukraine a pu avoir, quand on regarde par exemple dans les statistiques de 2000 à 2007-2008, il était porté justement par ces liens extrêmement étroits, qui étaient des liens parfois de sous-traitance, parfois de spécialisation, avec l'économie russe. Alors, le grand drame de la situation depuis 2014, c'est la volonté tant du gouvernement ukrainien de M. Porochenko qu'en rétorsion du gouvernement russe, de réduire, je dirais, à leur plus simple expression, ces échanges. Alors, ces échanges qui continuent d'exister, une partie sont comptabilisées, une autre partie ne sont pas comptabilisées, mais on sait qu'ils continuent d'exister, mais qui sont néanmoins énormément réduits par rapport à 2013, et ça... c'est la disparition de ces échanges qui a provoqué un espèce d'effondrement dans toute une partie de l'économie ukrainienne. Et de ce point de vue, il faut savoir que la tripartition politique de l'Ukraine, dont on a parlé tout à l'heure, elle se double d'une tripartition économique. Vous aviez une Ukraine industrielle qui est une Ukraine de l'Est, qui est une Ukraine qui, globalement, même s'il y a effectivement quelques industries autour de Kiev et d'Odessa, mais qui est une Ukraine qui est au-delà du Dniepr, et c'était en particulier le cas des régions russophones, Vous aviez une Ukraine de l'économie de service qui se développait autour de Kiev. Et on voyait là se développer des sociétés qui n'étaient pas des sociétés inintéressantes, mais qui étaient des sociétés qui étaient beaucoup plus liées à l'économie de services qu'à l'économie industrielle. Et vous aviez une économie qui était restée largement agraire, rurale, en Ukraine de l'Est. Ce qui fait d'ailleurs que, quand on regardait le revenu moyen par habitant, vous aviez des écarts de 1 à 3 entre les régions de la Volhynie, c'est-à-dire les régions qui sont le plus à l'ouest de l'Ukraine, et les régions les plus à l'est. En fait, il faut savoir que les régions qui ont fait sécession, les régions de Lugansk et de Donetsk, c'était historiquement des régions relativement riches en Ukraine. Et ça aussi, ça a beaucoup joué dans la crise économique globale qu'a connue l'Ukraine. Donc, je pense que M. Zelensky, et peut-être aussi les gens qui le soutiennent dans l'ombre, ont compris une chose, c'est que si l'Ukraine veut aujourd'hui s'en sortir, si elle ne veut pas vivre indéfiniment au crochet du Fonds monétaire international. Et on sait très bien que le Fonds monétaire international, bien sûr, il peut aider un pays à un moment donné, mais il fait payer son aide, et ce n'est pas une solution durable, ce n'est pas quelque chose qui puisse être prolongé dans le temps. Ça ne pourra passer que par le rétablissement de liens économiques importants avec la Russie. Et donc, de ce point de vue-là, le discours de M. Zelensky qui dit qu'il est prêt à discuter avec les Russes, bien sûr qu'il demandera un dédommagement, etc., mais qu'il est prêt sur le principe à discuter avec la Russie, oui, ça me semble être une position de réalisme tout à fait absolu dans la situation de l'Ukraine.
Est-ce que c'est encore en mode économie, peut-être ? Est-ce que c'est par tous ces éléments que vous expliquez les fortes turbulences par lesquelles passe régulièrement l'économie ukrainienne ? Actuellement, elle est à 2,5-3% de croissance, on est en positif, mais en 2009, elle est passée par une récession de presque 15%, c'est absolument énorme. Après la crise de 2015, elle était à presque 10% de récession. C'est des yo-yo immenses. Est-ce que c'est
alors, il y a des raisons très différentes. En 2009, la principale raison de la, si vous voulez, de l'effondrement de l'économie ukrainienne, c'est le fait que l'Ukraine n'a pas voulu déprécier la grivna alors que la Russie a laissé se déprécier le rouble. Donc, avec un rouble déprécié, les produits ukrainiens ont trouvé beaucoup plus de difficultés pour venir sur le marché russe, alors que les produits russes, eux, pouvaient pénétrer en Ukraine beaucoup plus facilement. De ce fait, si vous voulez, là, sur ce point, il faudrait que les autorités ukrainiennes comprennent qu'elles sont tellement liées à la Russie qu'elles doivent, d'une certaine manière, ajuster le taux de change de leur monnaie à l'évolution du taux de change du rouble. Ça, c'est un premier point.
C'est un manque de réalisme vous...
En 2009, c'était absolument ça. C'était absolument ça. En 2015, c'est une chose différente. Ce sont les effets de la guerre civile. Parce que, on ne veut pas en parler, mais il faut l'appeler pour ce qu'elle est. C'est une guerre civile, en réalité. Et ce sont les effets
13 000 morts actuellement.
Voilà. Ce sont les effets de cette guerre civile.
Basse intensité, selon l'ONU, mais voilà, oui, ça tire bien sûr, oui, quasiment chaque jour.
Basse intensité, ouais. Ça dépend, parce que moi, si vous voulez, j'ai des amis journalistes qui ont couvert une partie des combats en 2014 et en 2015. Ils disaient, oui, on peut pendant une semaine tirer 2-3 coups de fusil, puis pas plus. Et puis tout d'un coup, il y a de l'artillerie qui tire massivement, et ça devient extrêmement violent. Il y a des chars qui sont engagés d'un côté comme de l'autre. Donc, plutôt que de basse intensité, on est dans une succession de phases de grande violence et de phases de trêve. Et ça ressemble, de ce point de vue-là, beaucoup plus à ce qu'était une guerre du Moyen-Âge. Si vous voyez, la guerre de 100 ans, on ne s'est pas battu pendant 100 ans. Hein. Faut pas l'oublier.
C'était pas la guerre totale.
Voilà, ouais. On est beaucoup plus dans cette logique de trêve, puis un moment de guerre très violent, puis à nouveau une trêve. Bon, et c'est pour ça que le terme de basse intensité, à mon avis, fait référence à autre chose. C'est pas le bon vocabulaire. Mais bref, il y a eu en plus, non pas une rupture, mais une réduction extrêmement forte des échanges. Il y a eu aussi une sortie massive des capitaux. Alors, une sortie tellement massive que même des membres du gouvernement se sont fait prendre dans cette histoire. Rappelez-vous cette personne du ministère de la Justice, d'origine géorgienne. On ne va pas citer de nom et on ne dira pas avec qui elle vivait, mais qui a été prise à la frontière avec 1 ou 2 millions de dollars dans ses valises. Bon, voilà, on avait ça aussi comme problème. Et donc, ça explique l'effondrement rapide de l'économie en 2015 et en 2016. Alors, qu'après, en 2017 et en 2018, cette économie reparte un petit peu, c'est tout à fait normal, parce que la chute de 2015-2016 était anormale, en un sens. Donc là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très loin d'être revenu au niveau de 2013. Et ça, c'est ça le point que les Ukrainiens vivent de la manière peut-être la plus tragique pour eux. Bon, et en même temps, il faut savoir qu'il y a des phénomènes d'enrichissement assez scandaleux qui se sont produits, parce que cette guerre, c'est pas simplement l'appauvrissement global de la population, ça a été aussi un instrument qu'ont utilisé certains pour s'enrichir et pour appauvrir, évidemment, en conséquence les autres. Vous savez, il y a cette espèce d'aphorisme qui nous date des guerres de la Renaissance et qui dit « la guerre nourrit son homme quand elle ne le tue point », et je pense que nulle part plus qu'en Ukraine, il ne s'est trouvé vérifié.
Et un enrichissement des élites, oui, qui leur est énormément reproché, notamment à Petro Poroshenko, qui s'est enrichi au cours de son mandat. C'est quelqu'un qui est un industriel, notamment dans le chocolat. Il avait promis de céder ses parts, mais il ne l'a pas fait. Il s'est enrichi. C'est quelque chose que la population a assez mal pris. André Filler, Jacques Sapir mentionnait le cas du Donbass et de la Crimée. Votre avis sur tout ceci, peut-être d'un point de vue plus relations internationales et géopolitiques, qui est votre cœur de métier.
Écoutez, effectivement, ça reste un enjeu tout à fait majeur. Je souscris parfaitement à cette définition d'une guerre à rebondissement, d'une guerre latente presque, peut-on dire, avec effectivement ce que l'ONU appelle intensité basse sur de longues périodes de trêve, et après une densification extrêmement aiguë et extrêmement violente. Les 13 000 morts n'apparaissent pas de nulle part. Et il fallait bien faire des choses pour que 13 000 personnes trépassent. Donc l'intensité modérée, c'est à prendre quand même avec beaucoup de pincettes. Ceci étant dit, pour le futur pouvoir ukrainien, se posera évidemment la question comment régler ces problèmes, y compris ce que disait tout à l'heure Jacques Sapir, du point de vue de la prospérité de la population. Paradoxalement, l'année 2013, qui apparaît très souvent dans les études consacrées à l'Ukraine, commence à jouer en tout cas un peu le même rôle que l'année 1913 jouait dans l'économie politique, comme on appelait à l'époque, de l'URSS, où tout était comparé à cette dernière année de paix, de prospérité avant les cataclysmes de tout ordre. Et bien, pour revenir à 2013, il faut évidemment trouver des solutions politiques avant toute chose qui conduiront à une amélioration économique des questions de Donbass spécialement, et éventuellement de la Crimée. Je pense que personne ne peut sérieusement envisager le retour de la Crimée, les deux problèmes étant liés des origines d'ailleurs. Le seul point, à mon sens, qui leur est commun est une certaine concomitance dans le temps, mais structurellement, il s'agit de deux questions différentes. On ne peut pas comparer un rattachisme, un irrédentisme d'une partie de territoire, désormais faisant partie d'un autre ensemble géopolitique, et un sécessionnisme classique menant à la constitution de deux quasi-États. Donc déjà, du point de vue purement formel, juridique du droit international, les statuts des deux territoires ne sont pas les mêmes, ou des trois, si on considère que les deux républiques de l'Est ont chacune leur spécificité, ce qui est vrai d'ailleurs. Autant la question de la Crimée est une question de longue haleine qui ne peut être solutionnée que par une négociation qui arrangerait les deux parties, la question de la guerre, puisque la Crimée aujourd'hui n'est pas un théâtre des hostilités, tandis que dans le Donbass, nous avons toujours une guerre civile, une guerre
contre des Ukrainiens contre d'autres Ukrainiens, juridiquement parlant, qui se poursuit. Donc, ça doit passer d'abord par une armistice.
Est-ce que pour expliciter un petit peu les choses, ce que vous nous dites, c'est que finalement, peu importe la légalité, légitimité ou pas du rattachement de la Crimée, de ce qui se passe dans le Donbass, ce qui compte pour les Ukrainiens actuellement, c'est de mettre les mains dans le cambouis, de négocier, peu importe si c'est légal du point de vue du droit international, etc. Actuellement, il faut régler cette situation, c'est ça que vous nous dites ?
Je pense que le succès de M. Zelensky apporte plutôt un témoignage allant dans ce sens, puisque tout le programme de M. Porochenko était quand même en grande partie axé sur le côté dur en affaires qui était le personnage que s'est créé au cours de sa présidence. Donc je pense effectivement que le vote Zelensky traduit cette volonté. Jacques Sapir parlait d'un accord tacite ou ouvert. Au départ, il est très difficile d'imaginer que cet accord puisse effectivement conduire à un modèle Oslo où effectivement le président ukrainien et le président russe seront les mains. Nous sommes partis beaucoup trop loin dans l'affrontement et l'antagonisme. Mais déjà, des accords tacites permettant le rétablissement des contacts réels entre les deux pays, je vous rappelle quand même que la frontière entre la Russie et l'Ukraine est toujours poreuse. On peut parfaitement prendre un train, aller de Moscou à Kharkov.
C'est compliqué, mais ça se fait.
C'est compliqué, mais ça se fait. Et ça se fait sans... vous pouvez parfaitement aller acheter votre billet à Moscou, arriver 10 heures plus tard en Ukraine. Donc, concrétiser ces petits pas de rapprochement, à mon avis, ce sera le plus grand défi du futur président, quel que soit.
Un élément d'analyse que vous connaissez, mais que je vous soumets, qui est notamment porté par des gens comme Jean de Glignasti, qui est un ancien ambassadeur de France en Russie, qui nous dit que, bien sûr... que et la Russie et l'Ukraine souffrent de cette crise, mais que dans cette situation, il y a des éléments qui, d'une certaine façon, arrangent un petit peu les deux, à savoir la Russie, ça l'arrange que l'Ukraine... parce que ces frontières sont contestées, ne puissent pas intégrer l'OTAN. On ne peut pas intégrer une alliance militaire avec des frontières qui sont floues. Et puis, une intégration à l'OTAN voudrait dire que l'OTAN devrait intervenir immédiatement dans le Donbass, ce qui bloque plus ou moins son intégration. Et de l'autre côté, Jean de Glignasti nous disait que les nationalistes ukrainiens, ça les arrangeait d'une certaine façon, que les pro-russes, tout cet électorat pro-russe qu'il peut y avoir en crise, et dans l'est du pays ne vote pas à ces élections, parce que ça mettrait en danger le fait national ukrainien. Votre avis sur cet élément un peu assez réaliste et tout autant qu'il est complexe.
C'est tout à fait réaliste, mais j'ai quand même deux petites précisions à apporter. La première précision, certes, du point de vue juridique, l'Ukraine ne peut pas intégrer une alliance militaire, notamment l'OTAN, avec des différents frontaliers et territoriaux au sein de sa formation étatique. Encore faut-il que l'OTAN souhaite que l'Ukraine intègre ses rangs. Je crains que l'OTAN ait en ce moment assez de problèmes avec la Turquie de M. Erdogan pour avoir en plus l'Ukraine telle qu'elle est constituée aujourd'hui, voire même demain. C'est pas du tout certain, et provoquer un risque d'affrontement armé avec la Russie, ce que personne ne souhaite, ni à l'Est, ni à l'Ouest. Donc, la velléité, n'oublions pas que l'Ukraine, c'est quand même, malgré la terrible chute démographique, c'est quand même 50 millions d'habitants, c'est pas la Géorgie, c'est pas l'Estonie, c'est pas de petits territoires stratégiques, c'est un énorme ensemble territorial. Donc, je serais quand même extrêmement prudent avant de clamer le bienvenu que l'OTAN réserve à l'État ukrainien. Quant au second point, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, l'absence d'électorat criméen et celui des républiques de Donetsk et de Lugansk...
C'est un élément qui est paradoxal.
Tout à fait, mais ça affaiblit évidemment le pôle russophone. Si on suit cette logique binaire qui était certainement de mise, crise lorsque notre collègue, M. Blinasty, était en fonction. Aujourd'hui, je fais mienne l'analyse de Jacques Sapir avec trois Ukraines et justement l'envie de dépasser ce côté binaire, la multiplication du nombre d'acteurs, de leur. D'ailleurs, l'entrée via Zelensky d'Igor Kolomoïski, qui est justement l'incarnation de cette troisième Ukraine, l'Ukraine de l'axe Odessa-Dnipropetrovsk, dans la grande politique, enfin, sa revanche, ça montre que, de même que d'ailleurs le soutien des russophones pro-occidentaux libéraux de Kiev apporté à Porochenko, malgré son flirt avec l'extrême droite ukrainienne, tout ça montre l'extrême complexité et le côté, au jour d'aujourd'hui, peu opérationnel d'une analyse binaire, les Russes à l'Est, les Ukrainiens à l'Ouest, deux langues, deux religions, deux territoires. La situation est infiniment plus complexe.
Situation extrêmement complexe, et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission. Jacques Sapir, le mot de la fin, le fond de ma question à André Filler, c'était est-ce que cet enlisement de la crise, il est vraiment résolvable ?
Alors, aucun enlisement n'est définitif. Après, il faut savoir, est-ce qu'on en sortira dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ? C'est ça la véritable question. Je vois aussi un autre problème. C'est le fait que, autant si les accords de Minsk avaient été appliqués au début de 2015, on aurait pu imaginer un retour dans l'Ukraine des deux provinces qui avaient fait sécession. Autant aujourd'hui, c'est une perspective qui me semble beaucoup plus éloignée. Parce que, du fait même de cette guerre, du fait des combats, il s'est forgé une forme de sentiment national spécifique à Lugansk et à Donetsk. Et là, ça va me sembler être beaucoup plus difficile pour réintégrer, si même c'est possible, ces régions dans l'Ukraine. Donc là, la question risque d'être irrésolue pendant encore de très nombreuses années. Alors que, par exemple, sur le cas de la Crimée, oui, je suis tout à fait d'accord, un accord peut être trouvé assez rapidement, parce qu'on sait d'ailleurs que la population de la Crimée a largement validé son rattachement à la Russie. Donc là, le problème ne se pose pas en réalité, mais il se pose réellement beaucoup plus sur Lugansk et sur Donetsk.
Et voilà, en tout cas, un premier élément de réponse nous sera donné avec le second tour de cette élection présidentielle ukrainienne. Ce sera le 21 avril. Merci André Filler, merci d'avoir été Clément. Avec nous aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir. Et à vous tous qui nous écoutez en radio ou nous regardez sur YouTube. Et oui, YouTube, vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur la chaîne de Spoutnik France. Également, désormais, toutes ces émissions en version audio sur le fr.spoutniknews.com à la rubrique Russe Europe Express. Ce numéro était préparé avec la complicité de mon petit camarade Jean-Baptiste Mendès, les Cosaques de la technique, c'était Pippo Picci et Thibaut Pica. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine dans Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas vos Jacques. Salut à tous.
This is a provocation. Let them do.
No. No. No.